Le monde est vaste, surprenant, complexe. On peut s'y perdre. Chaque mois, on vous envoie une petite carte postale. Écoutez-la et tâchez de vous y retrouver. Devinez d'où elle vient. Cette ordure de Korjan avait bien fait les choses. Ses berlines planquées dans un garage, il restait dans la cour qu'une petite gigoulie rouge, toute cabossée. Ses deux filles étaient là, ainsi que deux invités étrangers, votre copain Mihai et vous. Les belles prises, les perdreaux de l'année. Le buffet débordait de salades, de betteraves aux pruneaux, de fritures et de petits pains. Tout était végétarien, car on était en plein carême. Pas question de manger de la viande aujourd'hui et de choquer les trois bonnes sœurs amenées d'Italie par le complice de Korjan, dont les parents devaient bien se douter qu'il tournerait mal, puisqu'il l'avait nommé Fausto. Il avait les jambes courtes et des sourcils pointus, au-dessus d'un regard sournois, dans un visage bouffi. Korjan aussi avait de bonnes joues, bien qu'il passât son temps à se lamenter bruyamment sur la misère de son pays. Tout en avalant une macédoine saturée de mayonnaise, il insistait pour que vous écriviez une lettre à Action contre la faim, tout de suite, là, sur un coin de table. Pour vous attendrir, il vous racontait l'orphelinat délabré où ils avaient amené les sœurs. Et il vous servait le même boniment. « Une misère, mon Dieu! Vous n'avez pas idée! Oh, les pauvres enfants! Oh, il y a des pays oubliés de Dieu! Haïti, mais c'est rien à côté de ce qu'on vit! Oh, mon Dieu !» Fils de chienne! Hypocrite enfoiré! Vous aviez pas eu besoin de son emphase de bouffon pour savoir que c'était la merde par ici. Au marché, l'étal qui attirait le plus de clients, c'était celui qui vendait des poussins. Comment est-ce que les habitants de la capitale faisaient pour élever des poulets? Sur le balcon de leur clapier? D'imaginer les sommes astronomiques que ces deux vieux roublards soutiraient aux congrégations catholiques? Les orphelins en voyaient pas trop la couleur, mais avec Mihai, ça vous a plutôt amusé. En pillant littéralement le buffet, vous avez commencé à blaguer, en français, histoire que personne ne vous comprenne. Il n'y avait rien à boire, mais vous étiez en pleine ivresse. Korjan a fini par regretter de vous avoir sorti devant les bonnes sœurs. Vous n'étiez peut-être pas les dignes représentants de la cause humanitaire qu'il leur avait vendue. Ça finissait par se voir. Et en plus, voilà le Mihai qui commence à leur parler en italien. Alors, il a enjoint à ses filles de vous emmener faire un tour en ville. Et pourquoi pas? Assez trempées dans ces combines sordides. Elles vous ont amené dans un bar lounge à la con, où se pavane toute cette bourgeoisie nouvelle de tricheurs et d'affairistes. Le lendemain, un bol de soupe aux concombres, une tartine de pâté de foie et direction la gare routière. Ni vous ni Mihai ne connaissiez le pays. Vous êtes monté dans le premier bus. Il allait vers le nord-est. Et pourquoi pas? Un monsieur qui avait pour tout bagage un sac plastique siglé Gucci et un filet de patates de 30 kilos vous a conseillé de descendre, au bout d'une heure, dans un joli petit village, lové dans un méandre verdoyant. En sortant du bus, vous êtes allé vous balader, sans contrainte, sans direction, sans a priori. Libre comme l'air. Vous aviez pas mal de calories à dépenser, et il y avait un de ces petits soleils printaniers qui se décide enfin à sécher la boue. Un tracteur qui se dépêchait de semer. Des groupes de gamins tout sales, embringués dans on ne sait quelles histoires, on ne sait quels jeux. Des oiseaux ravis, et même un petit renard qui a détalé à l'orée d'un bosquet. Une chouette journée. En fin d'après-midi, vous vous êtes décidé à rallier le village. Vous avez fait comme d'habitude par ici, chercher la maison du pop. C'est souvent la plus grande, la plus confortable, et il aime bien à la fois faire œuvre de charité et recevoir des invités internationaux. C'est gagnant-gagnant en somme. Mais là, petite déception. Au lieu d'un quinquagénaire charismatique, vous êtes tombé sur un pop plus jeune que vous, maigrichon, la barbe courte et peu fournie, l'air d'un étudiant complexé. Et il avait visiblement pas trop envie de vous avoir à dîner. Sa femme était plus avenante, avec ses joues bien rouges de paysanne et ce sourire de fille solide à qui tout réussit. Elle ne s'imaginait pas vous renvoyer. Il n'y avait pas trop de plan B dans ce bled. Les gens n'avaient pas l'habitude des étrangers. Elle a dit « Pourquoi pas ?» et en désespoir de cause, ils vous ont gardé. Le jeune pop vous a prévenu qu'il n'avait pas assez de couchage, qu'il venait de s'installer et qu'un couple d'amis allait venir dîner. Voilà pourquoi ils n'étaient pas trop chauds. Vous avez regardé Mihai sourire en coin, et il les a remerciés de leur hospitalité. Vers 7h, les invités sont arrivés, et tout de suite ils ont insisté pour vous rencontrer. Lui, petit, trapu, souriant, rouquin. Elle, grande, sèche, brune, l'air intello. Ils vous ont bombardé de questions sur vos pays d'origine, vos villes, et Paris bien sûr. Et assez vite, le pop roux a demandé du vin. L'autre ne voulait pas, rapport au carême. Alors le roux a commencé à balancer sur les cuites qu'ils prenaient ensemble, il n'y a pas si longtemps, en fac de théologie. Comment ils se mettaient tous minables, et comment ils sont maintenant pop, les personnalités les plus respectées de leur village. Il a mis de la musique, d'horribles manelles et démodées.
Allez, parinte, on sait que tu as plein de vin à la cave. Tes paroissiens t'en donnent à l'appel, sors-en un peu.
Votre hôte a fini par céder. Il pouvait rien refuser à son vieux copain, qui aurait pu balancer n'importe quel dossier, vu sa grande gueule. Il renaclait, mais il finissait toujours par remplir la carafe d'un délicieux vin blanc un peu trouble. Vous arrêtiez pas de trinquer. Le rouquin s'est pas gêné pour vous raconter que c'est lui qui avait arrangé le mariage des deux autres. Parce que seul, son pote aurait jamais réussi, et du coup, il aurait jamais eu de paroisse. Encore un toast. Les dames commençaient à avoir de l'émotion dans les yeux et envie de danser. Et pourquoi pas ? Vous vous êtes retrouvés à danser tous les cinq, sous le regard noir du pop maigre, dans son salon, et de temps en temps, avec sa femme. Vers 2 ou 3 heures, ronds comme des queues de pelle, vous avez fini par vous coucher. Vous aviez un lit, mais Mihai, plus petit que vous, dormait sur un lit de camp défoncé et qui sentait tellement la pisse que même vous, ça vous a un peu dérangé. Le lendemain, vous aviez prévu de repartir, et les pop vous avaient conseillé, non, ordonné, d'aller visiter un monastère troglodytique au bord du fleuve. Le bus partait à 7 heures. Le réveil n'a pas été facile. C'était prévisible. Une gueule de bois pareille, en plein carême, avec des pop, ça l'était un peu moins. Et vous rigoliez d'avoir si mal au crâne. Et ce rire allait relancer vos migraines toute la journée. Vous avez réussi à grimper dans ce bus. Bravo les champions. Il était petit, rondouillard, avec des bouteilles de gaz sur le toit, un peu comme la voiture de Gaston Lagaffe. Dedans, il y avait cette ambiance champêtre et old school, de gens qui vaquent à leurs affaires, sachant parfaitement où ils vont et pourquoi. Vous étiez un peu en décalage, mais bon, c'est une habitude à prendre. Derrière vous, une dame avait des gorets dans un grand sac. Ils commençaient à drôlement s'agiter les uns sur les autres. Ils savaient pas où ils allaient, eux. Encore moins que vous. Il a fallu prendre vos sacs sur vos genoux, parce que les gorets avaient pissé, et les rigoles au sol arrivaient jusqu'à vous. Et puis, le bus s'est arrêté. Au milieu de nulle part. La panne. Tout le monde est descendu. Ils ont pris leur cabas et leur baluchon, et ils ont commencé à marcher sur la route, sans demander leur reste. Comme s'ils étaient arrivés à destination. Mihai pleurait de rire. Il a dit oh, « Cette soirée pop, on va l'expier ma gueule !» Et la suite allait lui donner raison. Une bagnole qui passait vous a déposé au prochain village, puis une autre, et une autre. Et en même pas 2 heures, vous êtes arrivé au fleuve. Le village ressemblait à tous les autres, avec ses maisons carrées au toit de zinc. Mais ce fleuve, il était là, posé, puissant, suivant son idée, inarrêtable. Tout était organisé par lui et autour de lui. Le village avait un pont, mais personne ne l'empruntait. Pourquoi irait-on chez les bâtards mafieux de l'autre rive ? Contempler les poussières de l'Empire soviétique ? Et risquer de se faire cogner par les soldats de la 14e armée ? On vous a indiqué la direction du monastère, plein sud, sur la berge, tout droit vers Laval. Heide ! Ça paraissait très simple. À la dernière maison, vous avez bien vu que la rive se resserrait. Vous vous êtes arrêté pour demander votre chemin. Il y avait une dame en fichu dans son potager. Vous lui avez demandé en roumain. Elle vous a pas répondu et elle a crié « Sile ! Viens donc voir un peu par ici ! Tiens, deux garçons qui causent en russe !» Votre rire intérieur a repris de plus belle. Le bon vieux Sile vous a dit très clairement de continuer au bord de l'eau, tout droit. Et vous l'avez cru. Plus vous avanciez, moins il y avait de terrain, plus il y avait de pente et de saules. Quand il a fallu sauter de caillou en caillou pour éviter l'eau, vous avez compris que le vieux s'était foutu de vous. Vous avez grimpé la berge à la verticale. Extrêmement raide, elle vous a fait regretter les clopes des pop. Mais le fleuve était encore plus beau vu de haut. Et puis, il y avait un chemin. Vous avez continué votre marche, sous un beau soleil, en discutant de l'absurdité du concept de frontière naturelle. Entre géographes à moitié ivrognes, au bord d'un fleuve, face à une république séparatiste, quoi de plus normal ? Vous avez rencontré un type qui portait des bottes en caoutchouc, une bêche sur l'épaule et une barbe en velcro. Il a prétendu qu'il était prof de français, ce qui vous a un peu surpris parce que il fumait du tabac roulé dans du papier journal et parce qu'il parlait pas français. Mais bon, pourquoi pas ? Il vous a dit de continuer sur la colline, pas de problème, tout droit, jusqu'au monastère. Au bout d'une demi-heure, le chemin s'est terminé
au bord d'une falaise. Le monastère était visible, oui, tout près, pour les oiseaux. Vous, vous deviez descendre 100 mètres presque à pic, et ensuite traverser un bout de marécage. Là, tous les deux, vous rigoliez plus trop. Vous en aviez plein les pattes, et ça commençait à ressembler à une mauvaise histoire d'Heroic Fantasy. Vous avez fini par l'atteindre, ce fichu monastère. On vous a bien accueilli. Un des gars vous a fait visiter la partie ancienne, creusée effectivement dans la falaise. C'était un gagaouz du Boudjak, un certain Stepan. Assez sympa, mais qui se passionnait pas pour l'histoire locale. Il n'était pas moine, et même pas novice. Il était là pour bosser, gagner un toit et de la soupe chaude. Il vous a proposé de vous montrer les cascades, mais il se faisait tard, votre journée avait été bien remplie. Vous lui avez dit gentiment que vous préféreriez goûter la soupe. Mais on vous a pas logé dans la baraque des ouvriers, vous, oh non. Vous le méritiez pas, mais vous étiez encore une fois des hôtes de marque. Vous avez dîné avec le père supérieur et l'unique moine, frère Eustache. Le supérieur, la quarantaine, présidait une table végétarienne bien garnie. C'était peut-être la fatigue, mais il vous a mis mal à l'aise tout de suite. Et pourtant, vous avez accepté son vin sans faire de manière. Pourquoi pas ? Quelques gorgées vous ont délié l'occiput. Et les anecdotes du supérieur vous ont bien fait marrer. Des histoires d'étudiants et de régiments. Un type en coma éthylique, qu'on réveille avec du jus de bouse, puis en lui pissant dans la bouche. Un trafic de bijoux caché dans un vagin. Ça collait pas trop avec le lieu ni le moment. Mais pourquoi pas ? C'était bien raconté. Vous étiez assis, au chaud, nourri, bientôt couché.
Alors, pour le couchage, comment fait-on, frère Eustache ?
A demandé le supérieur.
Oh mon père, je ne sais pas moi, je ne suis qu'un enfant.
Qu'il a répondu en se tortillant. Ça vous a dessoulé direct. Il avait effectivement une voix de fossé, mal assurée, mais aussi un physique d'ours. Rond, géant, hirsute. Le supérieur a laissé planer un silence, puis il a dit
« Bon, il y en a un qui va dormir avec Eustache et un autre avec moi. Qui vient avec moi ?»
Et il a posé fermement sa main sur votre genou. Vous vous êtes crispé. Vous avez bredouillé. Mihai a croisé votre regard, puis il s'est porté volontaire. La main a quitté votre genou. Est-ce que Mihai s'est sacrifié pour vous ? Est-ce qu'au contraire, il s'est dit qu'avec le supérieur, il avait une meilleure chance de s'en sortir ? Vous n'en avez jamais reparlé. Mais vous vous êtes posé la question toute la nuit, alors que vous faisiez semblant de dormir, tout habillé, en tenant votre ceinture, entre frère Eustache et le mur dans lequel le poêle chauffait très fort. Le lendemain matin, vous attendiez moins le petit-déj que des nouvelles de votre camarade. Il est finalement arrivé, avec sa tête de pétchénègue en déroute. Quand les deux religieux ont eu le dos tourné, il a levé un pouce triomphant et vous a lancé un grand sourire. La délivrance n'était pas loin. Après un petit déjeuner vite avalé, vous êtes monté dans une voiture tonitruante qui devait vous emmener à la ville voisine. Et le rire a repris. Vous êtes dans le grand monde, dans les courbes tragicomiques du fleuve appelé Nistru d'un côté et Dniestr de l'autre. Vous êtes à 47 degrés 36 minutes de latitude nord et à 28 degrés 59 minutes de longitude est. Vous êtes en train de fuir le monastère de Tsipova en République de Moldavie, en plein carême. Et le rire ne vous quitte plus.
Le monde est vaste, surprenant, complexe. On peut s'y perdre. Chaque mois, on vous envoie une petite carte postale. Écoutez-la et tâchez de vous y retrouver. Devinez d'où elle vient.